Accès libre avec Luc Fortin.
Férié, pas férié, même musique, même thème. Et je ne suis pas seul, Émilie aurait dû également dire « Et Christiane Compagna ». Bonjour, Christiane Compagna.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Jean-Sébastien Laliberté de l'autre côté de la vitre.
Allô, Émilie ne parle pas de moi non plus.
Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'à chaque fois, je parle de toi.
Ben merci.
Oui, tout à fait.
Eh, hey, bonne action de grâce.
C'est vrai. Ceux qui mangent de la dinde encore, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis c'est bon, une dinde, là, tu sais, bien. Il me semble que c'est ton genre, Christiane, la famille, puis...
Ma famille est du genre fondu. Et d'ailleurs, on en a mangé une hier pour le 50e anniversaire de mariage de mes parents.
Au bœuf, au porc?
Un peu de, du bœuf principalement, généralement un peu de poulet, des fois un petit peu de gibier.
Wow. OK. On va causer élection. En fait, l'idée, c'est qu'on vous rediffuse des éléments qu'on a cru intéressants et qui vieillissent bien. Donc, des éléments qu'on a... disons, des gens qu'on a reçus depuis le début de l'année. Donc, c'est la question de la proposition de vote électronique au Québec. Il y a le DGE qui se questionne là-dessus et qui nous demande de s'affirmer, tiens, si ça nous intéresse, si ça nous inquiète. On va également s'intéresser aux salles de spectacle qui ont reçu une bonne note de la part des différents organismes de personnes handicapées, de garderies qui ont de la difficulté avec des enfants en TSA et de Sobeys IGA. Parce que, vous allez le remarquer, Sobeys a lancé une très, très belle initiative, selon moi. Quand on a vu ça, Christiane et moi, on s'est dit « Ah, faut parler au monsieur Jason Patuano, qui finalement offre des heures pour, comment on appelait ça, des gens qui sont sensibles... »
Qui ont des sensibilités sensorielles.
Oui, c'est ça.
Chaque dimanche, entre 18h et 20h, on diminue l'éclairage, on s'arrange pour qu'il y ait le moins de bruit possible.
Ouais. Mais dis pas tout, on va l'écouter. Jason Patuano, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on vous a laissé le temps de dîner, vous qui êtes une heure plus tard que nous?
Non, c'est correct. J'aime mieux faire ça sur un vent de vide, plus performant.
Mais c'est pas parce que vous manquez de bouffe, là. Vos allées sont regorges de produits. Il est directeur des communications chez... Ben, quoi? Sobeys Atlantique?
Non, en fait, Sobeys IGA, mais okay. pour tout le pays, quoi.
Oh, wow! Ben là, je m'incline. On va l'appeler monsieur.
Pas nécessaire.
Les maritimes, peut-être juste expliquer aux gens pourquoi on se parle, les maritimes ont choisi de prendre le pari d'offrir dans leur succursale Sobeys des heures d'ouverture pour les personnes ayant des sensibilités sensorielles. Donc, tous les dimanches de 18 à 20 heures, on baisse la lumière, on baisse la musique. J'imagine qu'on parle moins fort lorsqu'on a besoin du commis des viandes, ligne 1. D'où est venue la demande?
Oui, en fait, c'est une excellente question. Comme vous disiez, c'est un programme qu'on a implanté maintenant dans tous les magasins Sobeys dans les provinces atlantiques ainsi qu'en Ontario.
Ah,
là,
oui,
c'est en train d'être déployé, okay, également. Tout ça a émergé d'un appel qui a été reçu par un magasin là, de Bathurst au Nouveau-Brunswick. En fait, à PEI, excuse-moi, à l'île du Prince-Édouard. Uh-huh. Et c'est la société d'autisme locale qui avait contacté le magasin en question pour proposer ce programme-là. Et le magasin a décidé là, de faire le test. Et force est de constater aujourd'hui là, que ça a été quelque chose de très bien reçu. Et quand on parle là, justement de gens avec des sensibilités ou hypersensibilités sensorielles, c'est vraiment un vaste spectre de gens allant des gens qui vivent avec le spectre de l'autisme ou d'autres mêmes sensibilités. On n'a qu'à penser également peut-être aux gens là, qui sont des personnes âgées, des gens pour qui, là, justement, des fois sortir dans des endroits comme ça où c'est très bruyant parce que seul les bruyants.
Quand
on s'arrête là, à y penser là, ouais, et puis qu'on se met à réduire, que ce soit l'éclairage, que ce soit le son, la musique, les intercoms, les scanners, le bruit des paniers, on se rend compte là, que c'est excessivement bruyant. Et puis, ça a été très bien reçu. Puis on pense que c'est une façon également de redonner à la communauté qui nous donne énormément là, partout au pays.
C'est peut-être l'avantage justement de... plus petit patelin, c'est que le commerçant est plus près de sa clientèle, donc prend le temps d'écouter son besoin et ensuite, ben, le besoin fait des petits et les réussites font des petits. Peut-être que si on avait commencé à Toronto, c'était un petit peu plus difficile. En même temps, comment on reçoit ça? Je veux dire, c'est quoi? On a regardé les chiffres de vente sur l'île du Prince-Édouard, puis on s'est dit, ça ne nuit pas, on va essayer de prendre, de se positionner?
Mais en fait, là, c'est que ça a aucun lien avec les chiffres de vente. Là.
Okay.
Tu sais, quand une décision comme ça est prise, c'est vraiment pris en fonction de l'impact que ça peut avoir positivement sur la communauté, sur ces gens-là qui souffrent d'hypersensibilité. Tu sais, faut pas penser là que tout ce qui est fait est en fonction d'un profit. On pense que l'expérience client est un élément qui est fort important. Puis quand on parle d'expérience client, ben tu sais, il y a façon d'aller dans le plus granulaire puis de voir comment est-ce qu'on peut vraiment répondre aux besoins de la population et de tous les types de clients. Et vraiment, c'est comme ça que cette initiative-là est partie. Puis c'est pas la seule, c'est pas l'unique. Vous mentionniez là que ce projet-là est parti justement d'un magasin à l'île du Prince-Édouard. Il y a certains projets parfois qui partent de d'autres magasins qui sont situés dans des grands centres. Mais là, vraiment, la beauté d'une entreprise comme Sobeys, comme IGA, c'est qu'on est une entreprise vraiment présente d'un océan à l'autre. Donc, quand il y a une belle histoire ou une belle pratique qui se fait dans un marché, ben on est capable de la répliquer et puis de l'essayer ailleurs. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui là, de quelque chose qui est parti d'un petit magasin à l'île du Prince-Édouard et qui maintenant se promène un peu partout au Canada. Et d'ailleurs, au Québec, on est en train d'évaluer également comment on peut l'implanter dans nos marchés, si vous voulez.
Mais lorsque vous dites on essaie de regarder comment implanter ça, je veux dire, quelle serait la différence? Pourquoi ne pas prendre simplement la même formule puis dire « go »
Ben en fait, c'est sûr qu'on a une responsabilité aussi comme épicier de s'assurer que ça fonctionne d'un point de vue clientèle, parce que on doit à un moment dans la semaine, dans la plupart du pays là, c'est les dimanches entre 18h et 20h, donc il y a quand même une sensibilisation à faire auprès de la clientèle.
Okay, ouais.
Et également, on veut travailler avec nos marchands affiliés parce que vous comprendrez qu'au Québec, avec IGA, on a un réseau très étendu de marchands affiliés avec qui on veut travailler au courant des prochains mois à ce sujet-là. Mais on veut commencer là plus dans les magasins qui sont des magasins qui sont corporatifs pour voir justement comment le déployer. Parce que quand on commence un programme comme ça, on veut bien faire les choses.
Ouais, ouais.
On veut pas faire les choses à moitié. On veut pas créer un environnement qui serait pas idéal. Donc, si on le publicise de cette façon-là, il faut que quand une personne qui souffre d'hypersensibilité sensorielle rentre dans le magasin, qu'elle vive l'expérience à la hauteur de ses attentes. Donc, on n'est pas dans l'improvisation et c'est pour ça qu'on veut être prudent de la façon dont on va l'implanter.
Bon, l'été, ça m'apparaît assez simple parce que le soleil se couche tard. L'hiver, je ne sais pas à quel point on diminue la luminosité, mais est-ce que ça cause des ennuis? Est-ce qu'on est obligé de, disons, d'abaisser la luminosité un peu moins que ce que l'on offre comme réduction l'été, justement, à cause de ça?
Bien, en fait, c'est sûr que la chose la plus importante, c'est la sécurité des clients dans le magasin. Là. Donc, on veut s'assurer que les gens puissent voir devant eux. Là. Donc, la règle, si vous voulez, là, c'est de diminuer de 50% l'éclairage. Donc, c'est vraiment l'éclairage en magasin. Donc, on ne tient pas compte ici là, de l'éclairage extérieur. Là.
Non.
Mais c'est vraiment l'éclairage en magasin. Donc, 50%, c'est quand même important comme réduction.
Ah oui.
Mais on s'assure là que le tout soit fait de façon sécuritaire. Puis comme je disais tout à l'heure, une des autres choses qu'on fait, c'est entre autres le bruit qui est fait avec les paniers, par exemple. Donc, vous savez, des fois, on a nos employés qui vont aller chercher les paniers dans le stationnement, qui vont les ramener à l'intérieur. Et lorsqu'on emboîte les paniers un dans l'autre, c'est sûr que ça fait beaucoup de bruit. Donc, on s'assure qu'avant l'heure de début, si vous voulez, de cette période-là, que tous les carrosses ont été ramenés à l'intérieur pour éviter ce bruit-là là, pendant que les gens sont dans le magasin. Même chose dans les rayons, moins de bruit dans les rayons. Également, le téléphone entre les services, comme vous disiez tout à l'heure, des annonces se font peu ou se font pas. On coupe le son, la musique, les téléphones, les scanners aussi quand on arrive à la caisse et puis qu'on doit passer les aliments pour les scanner pour avoir le prix. À ce moment-là, on coupe ou on réduit le son de ça. Donc, c'est vraiment une expérience qui est qui est spécial. Et puis, tu sais, même pour les gens qui ont passé une, je sais pas moi, une semaine très occupée, tu sais, dans le brouhaha de la journée, et puis qu'on arrive dans un environnement comme ça, des fois, ça peut être très apaisant.
Surtout le dimanche avec les jeunes à la maison, puis tout ça, là, t'as peut-être... Sauf que parfois, il y a moins d'employés le dimanche à cette heure-là. Je sais pas si on craint un peu parce que, en tout cas, moi, j'avoue que c'est le genre de truc qui me plairait, si ce n'est que pour entendre moins les fameux chanteurs, chanteuses qu'on entend tout le temps dans les épiceries. Ça peut être un plus. Est-ce que, c'est à part là, les clients qui sont le public cible, est-ce qu'on remarque que d'autres disent « Wow, quelle belle idée », même s'ils n'en ont pas nécessairement besoin?
Oui, d'ailleurs, les employés en partant sont très à l'aise avec l'initiative parce que pour eux aussi, c'est un environnement qui est agréable.
Vous imaginez, là, entre novembre et décembre, Jason, 2 heures, pas de musique de Noël, les employés vont capoter.
Oui, écoutez, je vais retenir votre suggestion. Je trouve ça intéressant. Peut-être qu'on l'étendra à plus longtemps. Mais blague à part, non, de façon générale, je voudrais que les commentaires, autant des gens qui viennent à cause du programme que les gens qui arrivent là un peu par accident puis qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de spécial dans leur épicerie, je voudrais que les commentaires sont super positifs. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que on a vu ce programme-là qui a commencé à l'Île-du-Prince-Édouard puis qui, là, maintenant, est ailleurs au pays. C'est pour ça aussi qu'on voit une certaine implantation ailleurs. Ouais. Mais on pense, en tout cas, que c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose de pas... Oui, c'est complexe, mais on a la capacité de le faire. Pourquoi ne le ferait-on pas pour essayer d'aider des gens qui vivent avec des conditions qui sont particulièrement, des fois, éprouvantes? Et, tu sais, c'est un petit baume dans leur journée, dans leur semaine. Ça peut leur permettre également de sortir, parce qu'il y en a qui peuvent être craintifs aussi de sortir, puis d'aller dans des endroits publics très bruyants. Alors, on pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, parce que les gens visitent nos épiceries régulièrement. Tu sais, c'est une nécessité, là, d'aller à l'épicerie pour se procurer des aliments. Donc, on veut essayer de rendre ça le plus, comment je pourrais dire, le plus agréable possible pour tous ces gens-là.
Mais j'ai envie de vous dire bravo. J'imagine que les associations, c'est sûrement un mouvement bien reçu. Et si on parle de, bon, c'est facilitant, c'est plus agréable pour une partie de la population, je vous dirais également que si ce n'est que dans la psyché de dire, wow, il y a du monde qui pense à mes besoins, ça fait du bien de se sentir accueillir dans une société où les décibels et le tape-à-l'œil visuel, finalement, se rivalisent malheureusement de compétition. Moi, je sais que c'est souvent la réaction, bon, je suis une personne aveugle, puis quand j'entends de la vidéo-description, je me dis, ah, il y a quelqu'un quelque part qui a pensé à moi, puis bon, maintenant, ils sont obligés, mais à l'époque où ce n'était pas le cas, j'avoue que ça me touchait, même si je ne regardais pas nécessairement le programme en question. Donc, ça fait
puis
du bien.
C'est toujours, puis vous avez raison, puis c'est toujours ce que vous faites quand on ne vous exige pas de le faire.
Oui.
Qui rend la chose encore plus louable.
Ben, comme puis, les contenants réutilisables chez IGA.
Exactement. Ah, ouais. Moi, je désire saluer aussi là, tout le travail des gens qui ont fait ça, qui ont entamé ce projet-là dans les maritimes, puis qui aujourd'hui là, nous positionnent favorablement dans ce dossier-là. Puis les employés également qui y participent, parce que c'est très humain comme approche. Et puis moi, ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que j'aime beaucoup travailler pour cette entreprise-là. C'est parce que je vois justement des gestes concrets comme ça qui sont faits pour essayer d'inclure les gens. Puis je pense que c'est très important dans la société d'aujourd'hui.
Il est directeur des communications nationales chez Sobeys IGA, Jason Patoineau. Merci beaucoup.
Merci à vous. Passez une très belle journée.
J'ai eu tellement peur qu'ils mettent le temps d'une dinde de l'autre.
Michel Barrette.
Ouais, non, non, c'est ça. T'as bien fait, Jean-Sébastien. Ma chaise qui vient de prendre le bord encore. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas évident de trouver des tunes d'Action de grâce. Fait que là, je me suis dit, bon, il va chercher le temps d'une, le temps d'une dinde. Bon, Élection Québec veut savoir si on a envie d'utiliser le vote électronique. Et cette semaine, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Même si vous allez entendre que j'avais l'avis contraire durant l'entrevue. Mais non. Ben, c'est-à-dire, non, c'est pas vrai. Je suis pour, mais pas pour moi. Dans le sens, je vais continuer à y aller, mais c'est vrai que ça peut aider du monde. Christiane, voterais-tu par Internet ou...
J'avoue que ça m'inquiéterait un peu. Surtout avec toutes les interventions de pays étrangers désormais, des hacks et des piratages.
Ouais. Julie Saint-Arnaud, qui déjà?
Julie Saint-Arnaud-Drolet, porte-parole d'Élections Québec.
Oui, on voulait savoir si... Ben, en fait, les prérogatives et surtout, on a jusqu'à quand pour se manifester auprès du gouvernement? Sans vouloir dédouaner là, le directeur général des élections, à savoir, c'est quand même important et essentiel d'offrir des bureaux de vote accessibles, mais est-ce que c'est une des plus-values que pourrait nous offrir le vote par Internet?
Bien, on pense que oui. C'est ce qu'on veut voir, notamment en faisant cette consultation publique-là. Donc, parmi les raisons qui sont évoquées à travers le monde pour introduire le vote par Internet, il y a celle d'améliorer l'accès aux personnes qui rencontrent des obstacles lorsqu'elles votent. Donc, c'est des raisons qui ont été évoquées, notamment en Ontario, ils ont fait une étude sur le sujet. Dans l'État aussi de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, le vote par Internet est notamment offert aux personnes qui ont des limitations visuelles et motrices. Donc, notre consultation, mais on veut aussi sonder ça. Quelles sont les attentes de la population? Est-ce que ça peut répondre à des besoins de cette nature-là?
Là, on est en plein, disons, dans les prochains jours, on devrait parler de renouvellement du mode de scrutin. On est en pleine campagne fédérale. Vous consultez le public. Il n'y a pas trop de remue-ménage autour de l'électoralisme?
Il y a beaucoup, hein, effectivement. Ouais. Il y a une affluence d'idées là, sur la scène publique présentement.
Côté timing, il n'aurait pas été plus avantageux de faire ça un autre moment?
Bien, c'est sûr que pour nous, on a reçu un mandat de l'Assemblée nationale. Tout ça s'inscrit dans une plus vaste étude qu'on est en train de faire sur la question. Et L'étude doit être déposée à l'Assemblée nationale en juin 2020. On veut consulter les gens le plus tôt possible parce qu'on va être en mesure de considérer les points de vue qui vont nous être exprimés ouais. dans l'étude. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire dès maintenant parce qu'après, nous, on va prendre connaissance de tout ça puis ça va nous permettre de faire des recommandations qui vont vraiment tenir compte de la consultation qu'on mène actuellement. Là.
Bon, est-ce que les Russes pourraient prendre mon vote et changer le parti pour lequel je vote?
Mais c'est une question intéressante. Ça fait partie justement des inconvénients, ouais, des risques ouais. qui sont associés par Internet. C'est ça, on comprend bien les avantages, la flexibilité pour l'ensemble des électeurs. Par contre, dans les désavantages, il y a cette possibilité-là de que des actes malveillants puissent modifier les résultats de l'élection ou encore dévoiler pour qui une personne a voté. Donc, c'est ce qu'on demande à la population, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Est-ce que ces questions-là vous préoccupent? Et nous, de notre côté, on fait une analyse des risques technologiques. On essaie de voir quelles sont les mesures qui sont disponibles présentement sur le marché qui pourraient nous permettre de limiter les risques ou de les éviter si possible. Et tout ça, ça fera partie de l'étude qu'on va déposer à l'Assemblée nationale en juin 2020.
Mais Julie, allez-vous également consulter l'Ontario, l'État australien et je me souviens plus si vous aviez mentionné
oui.
une autre...
J'ai parlé de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie, donc c'est un des États, ouais. effectivement. Il y a l'Ontario, il y a l'Estonie aussi où le vote par okay. Internet.
Donc, vous allez les appeler, ces gens-là?
La Suisse. Mais en fait, il y a une bonne littérature là, qui existe déjà okay. sur ces expériences-là à travers le monde. Donc, tout ça, c'est à l'étude. Il y a un grand volet de notre étude, justement, là, qui considère les expériences à travers le monde, qui essaie de voir qu'est-ce qu'on peut dégager de ça comme constat, comme avertissement, et est-ce que ça s'applique ici au Québec, ces préoccupations-là qui ont été vécues ailleurs dans le monde.
Est-ce que tout est sur la table ou pour le moment, disons, vous penseriez à introduire cette mesure-là pour un certain public?
En fait, il y a divers scénarios qui vont être étudiés à l'intérieur de notre mandat. Ce serait trop tôt pour s'avancer. C'est sûr que ce qu'on observe à l'échelle internationale, c'est rare des administrations électorales qui ont décidé d'implanter tout de suite pour tout le monde puis d'éliminer le vote papier, tu sais, par exemple.
Ouais,
donc, on peut penser à une introduction plus graduelle, plus prudente. Cela dit, pour le moment, je suis pas en mesure de vous dire que ce sera ça ou que ce sera pas ça, mais je pense que ce serait quand même raisonnable. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre consultation, on consulte en tenant pour acquis que le vote papier demeure. Donc, ça donne le ton un peu quand même.
Moi, j'avoue en tout cas que j'aime beaucoup, beaucoup l'exercice d'aller en ligne, de parler à mon scrutateur, de savoir s'il était plus fin ou moins fin que celui de la dernière élection et surtout de valider l'accessibilité. Bien que je n'ai pas toujours besoin du gabarit, je le demande constamment et j'essaie de jouer le jeu. Je demande même à l'ami avec qui j'y vais, « Toi, tu restes à la porte, je veux qu'il s'occupe de moi pour voir la capacité. » J'aime beaucoup mieux ça et probablement que je continuerai à profiter de ce type d'exercice-là. Mais je peux comprendre que pour les régions éloignées, pour peut-être même les langues, que ce soit les langues autochtones ou les Inuits dans le Nunavik, est-ce que on pourrait penser adapter également les bulletins de vote une fois que ceux-ci sont... Oui, l'adapter en mode électronique, mais même l'adapter côté langue? Ou faut que ce soit en français parce que c'est la langue officielle?
Oui, c'est ça. C'est sûr okay. que le français est la langue officielle au Québec. Donc, ça, je suis pas certaine qu'on irait jusqu'au bulletin. Encore là, c'est toute réserve. On n'est pas encore rendu
là. Oui, je comprends.
Par contre, je prends un peu la balle au bon. Vous disiez que vous aimeriez, vous préfériez sans doute vous rendre ouais. dans un lieu de vote. Et c'est important pour l'équipe d'Élections Québec, c'est que vous sachiez qu'on est sensible à ça, justement. On sait que plusieurs personnes qui sont en situation de handicap souhaitent exercer leur droit de vote en personne au bureau de vote. Mmh. Et d'ailleurs, on va poursuivre nos efforts pour offrir des lieux de vote accessibles et de l'assistance également sur place. Et lors des dernières élections générales, je pense que c'est une belle mesure qui a été mise sur pied. On a créé un nouveau poste qui aidait les directeurs du scrutin dans chaque circonscription, hein, parce que l'élection est organisée vraiment par une personne, le directeur du scrutin, qui veille à trouver les bureaux de vote sur le terrain et tout ça. Et il y avait un assistant à l'accessibilité qui allait confirmer l'accessibilité de chacun des lieux de vote ou encore qui allait vérifier quelles modifications pouvaient être apportées, quelles mesures pouvaient être prises pour rendre l'endroit accessible. Puis s'il y avait encore des problématiques particulières, on a même fait appel à une firme spécialisée en aménagement d'environnement accessible là, pour conseiller les directeurs du scrutin, voir quelles solutions pouvaient être mises en place. Donc, on poursuit nos efforts en ce sens-là. C'est quelque chose de très important pour nous, puis on conçoit bien que les gens veuillent garder aussi cette option de vote-là.
Si je reviens à la consultation présente, comment se fait-elle, moi qui suis aveugle, comment je peux me faire entendre?
Oui, donc c'est une consultation qui est en ligne. Donc, en se rendant à l'adresse voteparinternet.québec, c'est possible de remplir un court questionnaire. Si vous avez besoin d'assistance, notre équipe au centre de renseignement peut vous aider en appelant au 1-888-ÉLECTION.
Okay.
Donc, il y a ça aussi qui est pour vous. Il y a le questionnaire papier qui est peut-être moins pratique, par contre, pour une personne aveugle, mais c'est possible aussi en communiquant avec nous. On envoie le questionnaire par la poste.
Okay.
Donc, pour les gens qui aiment pas Internet ou qui n'ont pas accès.
Par hasard, du braille, du gros caractère, est-ce que c'est disponible ou pas avant la semaine prochaine? Parce que là, je viens de vous le faire penser.
Oui. En fait, c'est vrai qu'on l'a pas, okay. On n'a pas développé le questionnaire de cette façon-là. Par contre, lors des élections, nos dépliants d'informations, on les fait en imprimant grandi, en braille, en version audio, puis en vidéo, en langue des signes.
Okay.
Pour ce questionnaire-là, ben, pour le moment, c'est pas le cas. Ce serait plutôt l'assistance téléphonique avec nos préposés. Là.
Okay. Et on a l'occasion de se manifester jusqu'à quand?
C'est jusqu'au 3 novembre. Donc, on invite les gens à le faire en grand nombre. Et d'ailleurs, dans le questionnaire, on demande à la fin, justement, si les gens appartiennent à différents groupes, dont s'ils sont une personne handicapée. Puis c'est vraiment pour nous aider à bien cibler les besoins et à bien comprendre les attentes de cette clientèle particulière-là. Donc, j'invite vos auditeurs à remplir le questionnaire.
Il me semble que ça va particulièrement être utile là, lorsqu'on pense au vote par anticipation.
Oui.
J'ai l'impression que ce sont ces gens-là qui vont vouloir se prémunir de cette opportunité-là?
Puis on observe souvent, souvent on va penser que le vote par Internet va venir faire augmenter le taux de participation, mais ce qu'on étudie pour le moment, des expériences ailleurs dans le monde, ça nous demande plutôt un déplacement du vote. Donc les gens qui votaient, par exemple, par anticipation en personne, bien, vont plutôt choisir le vote par Internet. Donc souvent, on se rend compte comme ça que ça répond à un besoin des électeurs actuels. Ça ne convainc pas nécessairement toujours des nouveaux électeurs de voter, mais en même temps, faciliter l'accès au vote, ça reste une de nos grandes priorités. Donc, en ce sens-là, ça nous semble une mesure intéressante à étudier.
Oui, parce que, bon, vous le dites, il y a un fossé entre l'accès et le désir. Je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, mais j'ai tendance à juger parfois les gens qui me demandent quand a lieu le prochain scrutin. 5 fois, on m'a posé la question la semaine passée. Je me dis, tabarouette, on ne sait pas encore que c'est le 21 octobre. On part de loin. Julie Saint-Arnaud de Relais, merci beaucoup.
Bien, merci à vous. Une belle journée.
À vous aussi. Elle est porte-parole d'Élections Québec. Donc, 1-800-ÉLECTION.
Vous écoutez Accès libre.
Toujours avec Jean-Sébastien Laliberté à la régie, Christiane Campagna, recherchiste, que j'ai tiré de son bureau aujourd'hui parce que j'avais envie de partager ça. Et en même temps, parfois, je dis que tu es idimestre, Christiane, c'est encore vrai?
C'est encore vrai. Quand vous lisez le petit résumé d'Accès libre sur le site web, c'est moi qui l'ai fait et c'est moi qui mets le son.
Yeah,
le son découpé par Jean-Sébastien.
Simon Teamwork. April, c'est un gars de Québec du Cap-Vie. Cap-Vie, C-A-P-V-I-S-H.
Oui.
Ah, Québec, ils ne font jamais rien de pareil.
Le comité d'action des personnes vivant
l'énigme Québec,
avec une situation de handicap.
Ouais. Ça doit faire partie de l'énigme Québec, ça aussi. on voulait parler à Simon parce que les salles de spectacle ont reçu une bonne note, si je me fie à un texte de Radio-Canada. Et vous allez entendre peut-être assurément une petite référence à Michel Bédard qui avait parlé rapidement, brièvement, de cet article-là dans son émission Les Capés, émission d'ailleurs auquel vous pouvez vous abonner du côté de n'importe quelle plateforme.
Une émission de la radio CKIA à Québec.
Simon est responsable de la défense des droits et des communications au comité d'action des personnes vivantes avec en situation de handicap, le CAPVIE du côté de Québec. Bonjour Simon.
Salut, ça va bien les gars?
Ça va très bien, merci.
Parfait.
Dis que ça va bien, Jean-Sébastien. Dis les gars.
Merci de ton souci, Simon. Ça va très bien.
Simon, je lisais un article de Radio-Canada qui, d'ailleurs, auquel tu as participé parce qu'il n'y a pas juste un article. Il y avait une petite vidéo où la journaliste montrait, je présume, là, je ne vois pas les images évidemment, mais montrait, je présume, j'ai juste le layout, là, mais l'étalement ou la mise en place de différentes salles. Et semble-t-il qu'à Québec, en tout cas, on a vraiment un bon bulletin côté accessibilité des salles de spectacle si on compare avec Montréal ou d'autres villes au Québec. parfois, lorsqu'on lit un article ou lorsqu'on voit le traitement de la journaliste, on se dit « Ah, je l'aurais pas fait comme ça ». Est-ce que tu étais satisfait? Est-ce que tu as été mal cité? Est-ce que qu'on règle ça tout de suite? Parce que je voudrais pas te...
Tu veux dire si Montréal ou que
non,
Québec, pas Montréal ou...
Non, est-ce que dans ce qu'on t'a fait dire dans l'article et dans la vidéo, est-ce que ça correspond à ce que tu penses?
À ce que je pense, oui.
Parfait.
Je pense que, puis l'organisme aussi.
Parfait.
Ce qui arrive, c'est que la demande a été faite par une journaliste de Québec qui voulait comparer un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs au Québec versus la ville de Québec.
Mais comment se fait-il qu'elle a pensé à ça toute seule? Elle est bien bonne, elle.
Je ne sais pas si ça vient, parce que dans le fond, l'entrevue était supposée d'être plus en début septembre, puis on a été repoussé à mardi passé.
Okay.
Donc, parce que, à cause des élections fédérales, c'était supposé passer la journée des élections fédérales de déclenchement. Là, dans le fond, Hervé, moi, je soupçonne que ça vient des spectacles de Céline Dion que nous avons eus à Québec. Je ne sais pas si pour vous, vous avez eu des...
Non, ben, elle est malade, il va falloir qu'elle revienne.
Je vous taquine.
Ouais.
Mais nous, on a eu les spectacles, puis je pense que c'était dans le phénomène un peu là de est-ce que les salles de spectacle peuvent répondre aux personnes handicapées là, dans la région? Et la réponse, ben dans le fond, la journaliste, peut-être qu'elle s'attendait à trouver anguille sur roche là, que les salles de spectacle ne répondent pas vraiment à ce que les personnes handicapées ont besoin. Mais curieusement, elle a trouvé que la Ville de Québec répondait très bien aux critères d'accessibilité.
Et même au-delà des critères d'accessibilité, est-ce que tu as une idée pourquoi un tel succès chez vous?
Un tel succès, il y a toujours des problématiques aussi, là, je veux dire.
Mais je pense, c'est quoi, 110 places du côté du centre Vidéotron, quelque chose comme ça?
C'est 108.
108, quand même.
Mais là, on va mettre un petit bémol là-dessus aussi. C'est 54 places pour personnes en fauteuil ou handicapées et 54 places accompagnateurs.
OK, donc deux personnes en fauteuil, supposons 100 personnes en fauteuil, puis ça ne marcherait pas.
Je vais expliquer la patente, là. Dans le fond, c'est que c'est Ticketmaster qui vend les billets pour le Centre Vidéotron qui fait cette réglementation-là. Donc, le Centre Vidéotron, eux, ont 108 places. Je vais vous donner un exemple. Mon frère est en fauteuil aussi. Il n'y a rien qui empêche que mon frère est mon accompagnateur.
Ah oui, bon, OK.
Donc,
parfait.
On peut y aller à deux personnes en fauteuil.
Parfait.
La différence, c'est que si une personne en fauteuil, il ne va pas accompagner, bien, la place accompagnateur est perdue.
À moins qu'il y ait une autre personne en fauteuil qui n'est pas accompagnée puis qui va également, non?
Ben non, dans le fond, le banc, le siège accompagnateur, il ne sera pas mis en vente.
OK.
Mais ça, c'est pas le Centre Vidéotron qui fait ça.
C'est Ticketmaster. Okay.
Ça fait on l'a réécrit quelques fois, puis la situation ne change pas.
Okay.
Mais je pense que c'est pareil pour tout ce qui est Ticketmaster, là. C'est pas juste à Québec.
Mais sinon, je disais qu'il y avait quand même certaines salles où on disait que ça allait au-delà des normes.
Oui.
C'est quand même bien, non?
Ben oui, c'est une super de bonne nouvelle. Le Grand Théâtre, c'est en train de se... ils refont un peu les salles aussi. Donc, comme au Grand Théâtre, il y a plusieurs salles. Il y a des salles plus accessibles que d'autres. Mais tu sais, je veux dire, la journaliste a parlé beaucoup du nombre de places pour personnes en fauteuil.
Mm-hmm.
Est-ce que l'expérience totale...
Ah, okay.
Ça, c'est une autre question. Là.
Bon, mais ça n'a pas été abordé dans l'article. Puis là,
non.
Je me demandais, bon, OK, je te pose la question bien honnêtement. Est-ce que tu changes ton... Est-ce que tu mets un bémol suite à l'émission Décapée ou tu aurais mis ce bémol-là même avant que Michel dise ce que tu viens de dire? Parce que Michel, c'est ce qu'il disait à l'émission Décapée la semaine passée, c'est que finalement, oui, il y a le nombre de places, mais c'est souvent des places mal placées.
Dans le cas de...
Es-tu d'accord avec Michel?
Ça dépend des salles. Il y a des salles que je suis d'accord, il y a des salles que je suis moins d'accord.
Okay.
On avait parlé, moi puis Michel, avant qu'il fasse son
éditorial.
Oui, exactement. dans le fond, je suis un peu... parce que là, on parlait beaucoup des salles de spectacle. On parle pas du festival d'été
ou
des choses comme ça qu'on est super bien placées.
Ouais.
Sans Vidéotron, en tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'il y a des places aux deux étages pour personnes en fauteuil, donc deux choix de sortes de billets. Au Centre Bell, parce que j'y vais quand même assez régulièrement voir les Canadiens, c'est pas possible. Il y a juste un étage.
Okay.
Donc, on a beaucoup moins de place au niveau du Centre Bell. Mais là, on parle des gros amphithéâtres. Si on y va dans les plus petits, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Là. Si on parle du Capitole, je pense qu'on a 6 places. puis des fois, c'est sur demande. Donc, ils peuvent ajuster la salle en fonction du nombre de personnes handicapées qui font la demande de billets. Est-ce que chaque personne handicapée qui achète un billet se déclare une personne handicapée? Ça, c'est une autre chose aussi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de contexte là-dedans. J'ai reçu la semaine dernière un commentaire concernant justement l'article qui avait passé. La salle Albert Rousseau du Cégep de Sainte-Foy, qui est une salle qui a été rénovée, et les places pour personnes en fauteuil sont seulement au balcon.
Oh, OK.
Donc ça, c'est un petit peu plus plate que là, quand tu veux avoir une meilleure interaction là, avec la salle. J'ai eu là, une dame qui m'a appelé, là, qui va là avec une béquille, puis quand elle s'assoit dans la zone générale, qu'on peut dire, bien, on lui enlève ses béquilles pour pas qu'il soit dans l'allée et tout. La madame, elle me disait, ben je peux pas aller aux toilettes quand que je veux, il faut que je fasse une demande et tout. Donc, il y a quelques accommodements de même, là, que c'est pas toujours rose.
C'est quand même dommage qu'elle puisse pas les glisser sous les sièges.
Elle a demandé, mais il refuse question de sécurité. Là.
Quand j'avais un chien guide, moi, c'est là que je le mettais sous les sièges, puis je disais au voisin, bon, faites attention, il y a une queue, puis ça se peut que, là. Puis le voisin, une fois qu'il le sait, ça allait bien.
Mais je pense que c'est du cas par cas par les salles.
Ouais. Les petites salles, tu sais, vraiment là, ce que Christiane appellerait le underground, que ce soit, je sais pas moi, les petits cafés ou les bandes moins connues vont performer, est-ce que ça, c'est assez accessible?
Moi, je trouve, ça c'est personnellement à moi, là, j'ai pas fait d'enquête là, non plus, là. Je trouve que c'est là que le bas blesse un petit peu, parce que souvent, c'est des vieilles salles de spectacle. Donc, on aurait fait comme le Diamant dernièrement ou le Théâtre Labordé. Ça, c'est des salles qui ont été rénovées puis qui ont fait l'effort de l'accessibilité. Donc, ça peut être bien. Moi, je te dirais peut-être plus les petites salles, là, genre que les groupes de musique là, assez aléatoires à chaque semaine. Là. Mm-hmm. Peut-être que là, c'est plus difficile. Mais encore là, la sensibilisation s'est faite au fil des ans. On a à la Ville de Québec un comité accès culture. Donc, on se réunit là quelques fois par année pour discuter justement là comment rendre la culture plus accessible. Cet été, là, on a fait la démarche pour rendre accessible un parc là, qui a des spectacles à toutes les semaines.
Okay.
Donc, c'est une sensibilisation qu'on fait aussi au niveau des promoteurs de spectacles, comme Gestev aussi, qui ont fait un spectacle qui était passé à la baie de Beauport, dans le sable, dans le fond. Mais ils ont pris le temps de nous appeler, nous, les différents organismes communautaires, pour connaître les besoins, puis ils pouvaient faire une plateforme pour accueillir les personnes en fauteuil avec un cheminement assez court et tout. Là. Donc, ils sont très ouverts. Puis ce que je disais dans l'article aussi, c'est qu'on avait fait affaire avec un monsieur qui est directeur du théâtre des Gros Becs et des théâtres pour enfants. Eux ont eu la possibilité de faire un nouveau théâtre qui est dans le Vieux-Québec, qui s'appelle le Théâtre de la Caserne.
Oui, il me semble que c'est même le propriétaire de la salle qui a fait les démarches puis qui est allé pour voir comment rendre sa salle accessible. C'est quand même fameux.
Oui, mais moi, je trouve que ça montre l'ouverture des personnes qui veulent faire ça. Donc, Jean-Philippe, qui s'appelle, donc il m'appelle, il me dit « j'ai des plans, je voudrais voir comment on pourrait bonifier l'accessibilité là-dedans ». Puis il dit « maintenant, on a juste les plans, là. On est en train de développer ». Donc, y aller en amont, ce serait super.
Ah ouais.
Donc, on s'est assis avec lui. Aussi, il faut dire que la clientèle, c'est des enfants. Là. Donc, des fois, je vous donne un exemple. Si on a des places pour personnes en fauteuil à l'étage et au rez-de-chaussée, ben c'est quand même bien d'avoir des toilettes là accessibles aux deux
aux
étages.
Deux étages. Ouais.
Parce que prendre l'ascenseur avec un enfant qui là aux toilettes, des fois, c'est pas toujours évident.
Oui, puis même le comptoir, si jamais tu vas aller t'acheter un petit quelque chose à l'entracte, trop exactement. Souvent, les comptoirs sont très, très hauts, puis il me semble que c'est comme un peu diminuant d'être obligé de regarder super en l'air, puis tu sais, il y a moyen de placer ce comptoir des ventes-là d'une façon où un compromis entre ceux qui sont debout et ceux qui sont assis.
Ben il y a ça aussi. Faut pas oublier aussi les débarcadères transport adaptés.
Mm-hmm.
Donc, parce que là, on, dans le secteur du Québec, c'est très limitant comme endroit. Donc, on est parti de là parce qu'on fait un peu plus une espèce d'expérience cheminement. Donc, on arrive, on rentre, où sont les services, où sont les pour répondre à mes besoins, est-ce que je peux me rendre à telle place. Puis ce qu'on a fait avec ce monsieur-là aussi, qui est très intéressant, c'est qu'on a permis d'avoir des places en arrière ou en avant. Je vous explique rapidement. Dans le fond, c'est une salle à peu près de 300 places. Puis s'il y a une classe, parce que des fois, c'est des classes d'école qui vont là, on ne remplit pas la salle. mais on met les personnes en fauteuil en arrière, donc à peu près à 5 rangées de bancs ou 10 rangées de bancs, qui sont pas dans l'expérience avec tous les autres élèves.
C'est sûr.
Ce qu'on a permis de faire à l'avant, c'est enlever comme un regroupement de sièges de 6 places. Donc, quand on sait qu'il y a des plus petits groupes, il y a des personnes en fauteuil, bien, on peut mettre enlever les bancs puis installer les gens à l'avant. Donc, c'est amovible. Mmh. Vraiment.
Intéressant, intéressant. Oui. En tout cas, j'imagine que je ne devrais pas m'émerveiller quand je vois un propriétaire de salle de spectacle qui veut rendre sa salle accessible. Là, je sais qu'on est en 2019, ça devrait être la norme, mais malheureusement, comme ça ne l'est pas, ben, on est encore un peu... Ah! Quand on voit une journaliste qui n'est pas sollicitée par un organisme qui se questionne sur l'accessibilité des salles de spectacle dans sa ville, et ensuite, ben, quelqu'un qui, justement, veut... dans la salle de spectacle qui est en train d'organiser la rendre accessible pour tous. Simon April, merci beaucoup.
C'est drôle, tu es parti, et pourtant, tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans. Changer du tout, qu'est-ce que ça peut bien lui faire, une porte qui s'est refermée, on s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue, ça va pas changer. Tu changes de maison, il va continuer le monde, et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus. Et la vie continue, ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger, il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as changé, moi je suis resté.
Bon, ça, c'est la musique. Christiane, bon, tu as travaillé avec moi également pour Aime l'été. Et il y a eu un article dans le Journal de Montréal qui traitait d'une situation qui nous a rendu songeurs. Situation auquel j'étais déjà exposé. Parce que c'est un couple qui ont un enfant avec un TSA. C'est compliqué de trouver un CPE. D'ailleurs, j'ai une amie qui a été... qui est directrice d'un des CPE qui a dû, à un moment donné, jeter l'éponge à l'égard de ce petit bonhomme-là. Et là, on voulait savoir, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Et c'est une entrevue qu'on a faite au début de juillet 2019. Et au même moment, ça va peut-être être mentionné dans l'entrevue, où le ministre Lacombe venait d'annoncer un peu plus d'argent pour l'intégration des enfants en garderie.
Là, on veut parler à Electra d'Alamagas.
Oui, c'est bien dit.
Bonjour, Electra. Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Vous êtes responsable de l'intervention familiale chez Autisme Montréal. On voulait vous parler à cause, entre autres, d'un texte qui nous a mis la puce à l'oreille, surtout que je connais la directrice d'une des garderies qui a été ciblée par ce texte-là. Donc, aussi bien parler de conflit d'intérêts tout de suite. Mais la vraie question, c'est pas si la garderie ou les garderies ont bien fait ou pas, mais comment aider ces principalement jeunes filles éducatrices à bien encadrer ces jeunes qui, parfois, sont turbulents, faut le dire.
Si je ferais comme un récapitulatif de c'est quoi la problématique qu'on voit le plus souvent ou qui revient le plus souvent comme feedback des familles et même je pense que la plupart des garderies feraient le constat aussi, c'est il y a un manque de formation. Il y a un besoin de augmenter la formation face à notre clientèle. Les personnes TSA ou autistes, il faut comprendre que c'est un trouble du développement, mais c'est un trouble de développement qui est très complexe. Chaque individu est unique. Il n'y en a pas un comme un autre. Il faut vraiment s'adapter et adapter le milieu, le contexte, etc., tout l'encadrement spécifiquement aux besoins de l'individu. Il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui comprennent le danger, il y en a qui ne comprennent pas le danger, etc., etc. Vous comprenez? Il y en a qui ont beaucoup d'atteintes, ce qu'on appelle sensorielles, il y en a qui en ont moins. Il y en a qui ont énormément de capacités à intégrer un groupe, il y en a d'autres qui doivent faire des apprentissages pour être capable. C'est pas parce qu'on leur dit, ben là, il faut suivre les amis qu'on va suivre les amis. Il faut comprendre ça. Alors, il y a énormément... la problématique qu'on voit qui est la plus prononcée, c'est le manque de formation. Et si on n'a pas assez de formation, c'est difficile de faire l'encadrement adéquat. Et c'est aussi une autre problématique qui va avec ça, c'est... Il y a un besoin d'être capable d'avoir accès à quelqu'un qui peut coacher et guider au fur et à mesure le personnel, savoir quoi faire, dans quelle instance, comment intervenir. C'est ça là, un peu qui est manquant, là, qui doit être travaillé. Alors, on souhaite bien que les fonds que le ministère envoie, il y a une bonne partie qui va aller à la formation. Là. On le souhaiterait bien, ça serait pas mal placé. Là. Alors, ça irait dans la formation.
Il existe différentes sortes de garderies, hein, parce que, bon, au fond, le premier besoin qu'ont les parents, c'est d'avoir un endroit où vont leurs enfants quand ils vont travailler. On souhaite évidemment qu'il y ait aussi du dépistage et éventuellement de la stimulation s'il y a un diagnostic. Mais quand on parle de garderies, des CPE, des garderies privées, des garderies en milieu familial, j'imagine que le niveau n'est pas le même quand vient le temps d'un enfant qui a des besoins particuliers?
Mais il faut comprendre que... Un CPE, c'est une instance qui est beaucoup plus grande normalement, qui a différents types de professionnels qui travaillent là. Il y a plusieurs groupes. Une garderie qui est en milieu familial, c'est justement ça, en milieu familial, c'est à domicile. Ça se peut que ce soit une madame. Il n'y a peut-être pas des groupes au pluriel, mais peut-être un groupe, vous comprenez? C'est pas nécessairement le même type de milieu, c'est pas le même type de service qui va nécessairement être offert. Pensons s'il y a un manque d'encadrement et de formation spécialisée. Je veux dire le mot spécialisé en CPE, ben il y en a sûrement moins en milieu familial. En garderie, en milieu familial, je dois préciser.
Est-ce qu'ils ont tous la possibilité de recevoir, par exemple, une aide gouvernementale pour accueillir des enfants à besoins particuliers?
Il faut, pour être éligible à obtenir une subvention, il faut être subventionné, peut-être pas à 100%, mais partiellement. Il faut être accrédité et subventionné par le ministère. Sinon, une garderie privée ne serait pas éligible à la subvention.
Mais est-ce que le parent, lui, peut voir son enfant, si on veut, subventionner et avoir de l'encadrement par un spécialiste?
Répétez votre question, pardon.
Est-ce qu'on peut aller chercher à l'inverse, plutôt que ce soit la garderie, ce sont les parents qui aurait, un spécialiste qui est avec son enfant pour quelques heures dans la semaine, dans le jour, parce que je pense qu'il peut y avoir des appelons ça des éducatrices ou des orthos qui suivent l'enfant, non?
Ce qui arrive, je dois expliquer, dans le contexte au Québec actuellement, il y a beaucoup de familles qui sont en liste d'attente pour des suivis avec des professionnels, ce qu'on appelle du réseau public, pour avoir de la stimulation précoce, pour avoir de l'intervention. Une bonne partie des familles se ramassent en liste d'attente. Je vous dirais même la plupart en liste d'attente et une bonne partie rentre à l'école sans avoir eu de stimulation précoce. Alors, quand je parle de liste d'attente à Montréal pour avoir de la stimulation précoce spécialisée en autisme, elle dépasse 24 mois.
Oui.
Alors, si on a attendu en liste d'attente pour avoir le diagnostic, après on tombe sur d'autres listes d'attente, on rentre à l'école, puis il n'y a jamais eu de stimulation précoce.
C'est de moins en moins précoce.
Il y a plusieurs problématiques face à ça. C'est clair que les garderies ont besoin plus de soutien, d'encadrement et de formation. Ça, c'est un besoin, là, par rapport aux clientèles avec besoins particuliers. Là, c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la malice, c'est juste un constat. Il y a un besoin plus prononcé. Quand une garderie reçoit une petite subvention là, par jour là, pour embaucher quelqu'un, la personne n'est pas nécessairement plus formée. Mm-hmm. Là,
ben c'est ça, justement.
Ça peut être ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un accompagnateur, mais c'est pas une éducatrice, c'est pas une éducatrice spécialisée. C'est comme les montants actuellement, du soutien. Mais la garderie a droit toujours de décider comment que les fonds vont être alloués. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont améliorer le ratio différemment? Ils vont absorber les sous pour... Ou est-ce qu'ils vont choisir d'aller embaucher une autre personne pour accompagner le jeune directement?
Mais parlons de la formation de base d'un éducateur. À quel point les enfants à défis particuliers sont inclus dans la formation de j'imagine 2 ans pour devenir éducatrice, 3 ans, je sais pas c'est quoi.
Je pense qu'il y a une technique, je veux pas me prononcer, je dis ça avec toute réserve, il me semble qu'il y a comme une technique au niveau du cégep là, pour pour avoir le diplôme pour aller travailler en CPE.
Donc, c'est une technique, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'heures consacrées pour savoir quoi faire avec un enfant, défi particulier?
De façon générale, à Autisme Montréal, on dit qu'il n'y a pas assez de formation, point, partout. Là, c'est pas spécifiquement en CPE, en formation. Je doute que c'est, si vous pensez, il y a même toutes les professions n'ont pas assez de formation au niveau de leur étude. Ceux qui vont en avoir plus, c'est ceux qui font des stages, qui ont des pratiques dans leur domaine spécifique, là, des psychologues, etc. S'ils choisissent d'aller travailler, de faire leur stage en troubles de développement, en autisme spécifiquement, là, vous comprenez, c'est les éducateurs spécialisés aussi. Mais je ne pourrais pas dire spécifiquement que les éducatrices en milieu de garderie ont assez de formation.
Electra, là, on fait un constat général. OK, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de gens formés. Mais le parent, là, aujourd'hui, là, lui, il fait quoi?
Beaucoup des parents se ramassent à ne pas être capables de travailler. Parce que souvent, la garderie peut décider, désolé, je ne peux pas recevoir votre jeune après X, Y, Z situation. Mm-hmm. C'est pas chose faite facilement du jour au lendemain, bing, bang. Il y en a des garderies qui ne souhaitent pas faire d'efforts Il y en a d'autres qui veulent faire l'effort. Ouais. Ils ont exhausté tout ce qu'ils pouvaient, mais gardent vraiment, ils peuvent plus. Là. Alors, je ne veux pas dire que toutes les garderies sont égales, mais ce qui arrive pour le parent se retrouve sans beaucoup d'aide. Rappelez-vous, je viens de dire que la plupart se ramassent en liste d'attente du réseau public. Et ça peut affecter le travail, ça peut affecter la capacité de répondre à des moyens pour juste faire manger la famille. Là, si vous pensez, si le parent ne peut plus travailler parce qu'il n'y a plus de place pour envoyer l'enfant le jour, le parent doit rester à domicile et il ne travaille plus. Et ça compromet énormément tout le fonctionnement de vie de la famille.
Que c'est une situation perdant-perdant.
Ça cause des situations de détresse assez aiguës, là, ce qu'on appelle des situations de crise. Là. Alors, c'est pas. Il pleut pas des places libres partout Il n'y a pas des places disponibles facilement. C'est pas comme l'inscription à l'école, que c'est une obligation. Toutes les commissions scolaires se doivent de recevoir un jeune à un certain âge. En milieu de garderie, il y a des listes d'attente là aussi, etc., etc. Alors, des fois, ce qui arrive, c'est que des parents vont accepter parce qu'il n'y a pas d'autre option. Si vraiment ça compromet la capacité d'une famille d'être capable de se payer le loyer puis de nourrir les enfants, ils vont accepter un milieu que peut-être va pas nécessairement répondre aux besoins de jeunes assez bien. Là, alors, c'est pas que si un jeune va en milieu de garderie qu'il y aura assez de stimulation spécialisée nécessaire ni adéquate pour aider dans l'évolution. Ouais. Vous comprenez? Ça nécessite un peu plus. Il y aura comme une réflexion à faire parmi les grandes têtes plus haut placées, là, quand je parle du ministère, etc. C'est quoi qui pourrait être fait pour soutenir, améliorer le service rendu aux enfants? Quand je dis les enfants, je parle aussi de leur famille.
Bien sûr.
Par rapport au service qui est rendu.
En tout cas, jeudi dernier, on a annoncé 6,4 millions. Alors, pour le moment, le budget est passé d'environ de 9,3 à 16,7. Ça va aider, dit-on, 250 enfants de plus. Electra Dalamagas, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Elle est responsable de l'intervention familiale chez Autisme Montréal. Situation qui va toujours causer des ennuis. Une semaine avant le vote, est-ce que tu sais pour qui tu vas voter, Christiane?
Oui.
Jean-Sébastien?
Oui, moi j'ai fait ça hier.
Oh, OK, c'est réglé. Ah non, moi j'aime ça garder ça jusqu'à la fin. Puis souvent même, j'y vais avec une amie qui me prête main forte. Jusqu'au petit... puis ensuite ça, je demande aux gens là-bas, occupez-vous de moi, voir s'ils sont bons. Bonne semaine tout le monde. Bon, bonne fin de congé. On sera là le 21, évidemment. On parlera pas d'élection, mais on aura plein de choses à dire. Et ça, ben, grâce à Christiane.